Philippe Bonneville pour nous parler de cette quarantaine, cette mise en quarantaine de la communauté juive orthodoxe Toche de Boisbriand. Bonjour Philippe.
Bonjour Bernard.
Alors, tu es sur place?
Absolument, à l'entrée de ce quartier, à l'endroit même où on a érigé un poste de contrôle, parce que tout ce quartier-là, où résident environ 4000 membres de la communauté juive orthodoxe, eh bien, tout ce quartier-là, il est complètement bouclé présentement. À ce poste de contrôle où il y a des tentes, il y a des véhicules, il y a même des petites barricades et tout ça, ce qu'on fait, c'est qu'on surveille chacune des... tous les allées et venues dans ce quartier-là sont vraiment contrôlées. C'est pas la police, pour l'instant, qui fait ça. Ce sont des bénévoles de la communauté qui s'assurent que personne qui n'a pas de raison essentielle de se trouver à l'intérieur de ce quartier-là puisse y pénétrer. Même chose, on veut empêcher les membres de la communauté de sortir de ce quartier-là. Les policiers ne sont pas loin. Il y a des autopatrouilles à environ 100 mètres du poste de contrôle parce que à certains moments, semble-t-il, qu'il y a des gens peut-être un peu plus récalcitrants. Et à ce moment-là, la police peut intervenir. Mais jusqu'à maintenant, ça se passe plutôt bien. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des mesures de confinement très strictes. On parle de 14 jours de confinement qui ont été imposés à cette communauté juive hassidique parce que le nombre de cas positifs au coronavirus n'est peut-être pas en explosion, là, mais ça augmente considérablement. On parlait jusqu'à tout récemment d'une quinzaine de cas. Je dois dire, Bernard, qu'un dirigeant de la communauté juive qui vient tout juste de faire le point avec nous, les médias, ici à Boisbriand, juste avant qu'on entre en onde, toi et moi. Et ce membre de la communauté juive nous dit que le nombre de cas positifs, il est maintenant de 24 et non plus de 15, et qu'environ 40 % des tests de dépistage effectués dans la communauté se sont avérés positifs jusqu'à maintenant. Et ce dirigeant-là de la communauté juive, ici, craint une sorte de stigmatisation de la communauté. Rappelle aux gens que ça ne veut pas dire que parce que 40 % des tests sont positifs, que 40 % de la communauté qui est atteinte du coronavirus. Là, il demande aux gens quand même de rester calme. Et je te laisse entendre là-dessus Éric Goyer. Lui, il est directeur de la santé publique des Laurentides. Il nous explique un peu pourquoi et comment ça fonctionne, ce confinement de la communauté juive hassidique.
Actuellement, ce qui arrive, là, c'est que les gens de la communauté contrôlent beaucoup les allées et venues des membres de la communauté. Les policiers sont en soutien, mais je vous dirais, ça va être une minorité qui vont pouvoir sortir pour des services essentiels ou rentrer pour des services essentiels. La majorité vont demeurer à domicile. Notre préoccupation, c'est de s'assurer qu'ils ont suffisamment de nourriture, de médicaments, etc., parce qu'ils ne peuvent sortir que pour des services considérés essentiels ou les gens ne peuvent rentrer dans la communauté que pour des services essentiels. Donc, il faut s'assurer quand même que les gens ont tout ce qu'il faut. Jusqu'à maintenant, on a une collaboration vraiment, je dirais, hors pair des membres de la communauté, vraiment, vraiment.
Bon, mais ça, c'est une bonne nouvelle.
Oui, semble-t-il qu'il y a vraiment une très grande collaboration. Et on le voit ici. Moi, je suis ici depuis quand même le milieu de la matinée à ce poste de contrôle. Et on voit là qu'il y a pratiquement personne là, de la communauté qui tente de sortir de ce quartier-là. Les gens respectent, semble-t-il, les mesures de confinement. Te dire aussi que dans ce quartier-là, eh bien, ils ont accès, les membres de la communauté, à une épicerie. Ils ont accès également à une boucherie. Donc, c'est pas nécessaire pour eux d'aller ailleurs à Boisbriand pour obtenir justement certains aliments essentiels. Aussi, une des difficultés, Bernard, c'est la communication pour l'instant. Vous savez, bon, dans cette communauté juive hassidique très orthodoxe, eh bien, on pratique... Les pratiques religieuses sont très strictes, oui. Les familles sont nombreuses, plusieurs personnes vivent sous un même toit, parfois 7, 8, 9 personnes dans des condos. Et il y a une faible compréhension de l'anglais et du français pour plusieurs membres de cette communauté-là. Donc,
la langue d'usage, c'est le yiddish, hein? C'est bien ça.
Exactement,
hein? Oui,
c'est le yiddish.
Voilà.
Et pour certaines personnes, parler en anglais, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas la majorité. Donc, ce que les autorités ont décidé de faire pour favoriser une meilleure compréhension des consignes qui changent souvent de jour en jour, là, on le voit avec ce qui se passe via le gouvernement du Québec, on traduit les communications en yiddish pour cette communauté-là afin que tous puissent respecter justement les consignes et savoir exactement ce qui se passe. Parce que souvent, ces gens-là même ont une interdiction d'écouter la radio, de regarder la télévision. Donc, ça devient plus compliqué d'envoyer des consignes claires à certains membres de la communauté.
Très bien, Philippe Bonneville, journaliste pour Cogeco Nouvelles. Merci.
Merci, au revoir.
On va aller rejoindre maintenant un membre de la communauté juive hassidique, Abraham Eckstein. Bonjour, Abraham Eckstein.
Bonjour, M. Drainville. Merci pour me recueillir.
Ça nous fait plaisir. Dites-nous, M. Eckstein, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes là, qui pourraient être infectées. Est-ce que vous avez une idée un peu plus précise que ce qui a été communiqué jusqu'à maintenant publiquement?
Oui, je peux juste répéter ce qui a été dit, c'est que une centaine de personnes qui ont voyagé à New York et qui ont manifesté des symptômes ont été testées et 40% de ces centaines de personnes ont été trouvées positives. Donc, c'est un nombre relativement énorme de la reste des populations. Donc, pour être très prudent, les autorités publiques ont décidé de faire une quarantaine. Mais il faut être très prudent de ne pas faire une extrapolation que 40% de la communauté est infectée, que ce serait terrible si ce serait vrai. Mais oui. même si on a une population plus élevée relativement de la reste de la population, c'est raison assez pour être concerné parce que comme votre collègue l'avait dit, c'est nous sommes une grande famille qui habite dans le même endroit. Donc théoriquement, si un membre de famille est infecté, ça peut être très facile à se propager pour le reste de la famille.
Est-ce que, alors justement, dans une famille, mettons, où il y a 8, 9, 10 personnes, M. Eckstein, si l'une des personnes est contaminée, est infectée par le virus, est-ce que vous avez prévu une manière de gérer ça? Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là comme communauté?
Mais c'est un enjeu de famille, pas de communauté. Mais personnellement, par exemple, je suis en isolement préventif parce que j'ai voyagé à New York il y a presque 3 semaines. Donc, je suis avec mes 7 enfants dans ma foyer. Donc, c'est vrai. Si je sais sûrement que je suis infecté, je prendrai plus de restrictions. Mais si c'est sur le préventif, il est impossible d'avoir une chambre pour chacun, une salle de bain pour chacun. Donc, okay. Nous n'avons pas de big castle. On a juste des maisons.
Donc, vous êtes confiant que dans une maison où il y a beaucoup, beaucoup de personnes, il y a moyen de se confiner à une pièce, par exemple, à éviter le contact avec le reste de la famille. Vous pensez que ça peut fonctionner? Oui.
Non, je pense que ça peut fonctionner en certains cas et ce n'est pas fonctionné en certains cas, mais c'est exactement la raison pourquoi le gouvernement nous dit de se confiner à la maison, pas parce que c'est juste les familles qui vont être exposées et pas le reste de la population, ce qui est très important. Parce que c'est, à un moment donné, c'est très difficile d'éviter l'infection dans le membre de la même famille. Donc,
Vous dites, on a probablement rapporté le virus de New York, là où une centaine de personnes s'est rendue, dites-vous. Étiez-vous au courant qu'il y avait des directives de ne pas voyager au moment où vous vous êtes rendu à New York ou est-ce que les directives sont arrivées par la suite?
La directive est arrivée par la suite. Personnellement, dans mon cas, dans le cas de ces centaines de personnes, la fermeture de frontières, je pense qu'il n'y a pas plus que 10 jours de tout ça. Et ça allait très vite. Même quand je suis allé à New York, il n'y avait même pas une obligation de se confiner. C'était juste préventif. Et après quelques jours, il a devenu obligatoire. Donc, vous savez, comme tous les consignes changent de jour en jour. Mm-hmm. Et donc c'est très difficile. Mais c'est pourquoi, comme comité nous avons créé un comité d'intervention ici à Montréal avec la communauté à Boisbriand. Pour disséminer l'information, nous avons créé des groupes WhatsApp, de texto, de tout système téléphonique, toutes sortes de réseaux pour communiquer l'information avec les membres des communautés pour qu'ils soient tous à courant de toutes ces consignes et pour les respecter.
OK. Parce que là, ce qu'on nous rapporte, c'est que jeudi et vendredi, il y avait des membres de la communauté quand même qui faisaient des emplettes chez Costco. On espère juste qu'il n'y avait pas parmi elles des gens qui étaient revenus de New York. Parce que la consigne de se mettre en quarantaine quand on revient de l'étranger, ça fait quand même plusieurs jours qu'elle est en place, M. Eckstein. Là. En d'autres mots, si tu reviens des États-Unis ou d'un autre pays, tu es supposé de te mettre en quarantaine. Et ça, ça fait plusieurs jours qu'on est au courant de ça. Est-ce que vous avez, est-ce que les membres de votre communauté qui sont allés à New York ont tous respecté l'obligation de la quarantaine au retour?
Oui, je pense que oui. Parce que même maintenant, aujourd'hui, lundi, il y a, je pense, 10 jours que la frontière est close, qu'elle n'est pas possible même de rentrer de New York, sauf pour des raisons essentielles. Donc, même avant, la communauté a été très au courant des obligations. Bien sûr que, comme toute autre communauté, comme toute autre société, on ne peut pas garantir que chaque membre de sa communauté ou de sa société a été au courant ou a respecté les obligations, mais la communauté, comme une communauté ensemble, a été très au courant des obligations et j'ai toutes les raisons de croire qu'ils l'ont respecté.
Très bien. Alors, la prochaine étape, c'est quoi? Parce que là, moi, ce que je comprends, c'est que c'est des membres de la communauté, c'est ce qui a été rapporté par plusieurs médias, ce sont des membres de la communauté qui ont demandé à la santé publique de venir tester parce qu'ils avaient une inquiétude. Ils avaient une inquiétude, ils voyaient qu'il y avait des personnes qui présentaient les symptômes. Est-ce qu'on peut penser qu'une bonne partie de la communauté de 4000 personnes sera testée?
Je pense qu'on voit que des personnes vont démontrer des symptômes, ils vont être testés. Bien sûr, s'ils vont être exposés à des personnes qui ont déjà reçu un résultat positif, que vous savez, la consigne maintenant, ce n'est pas de tester chacun qui a une crainte qu'il a le COVID-19. Il faut avoir une raison, comme un voyage ou comme des symptômes. Je ne sais pas exactement le consigne maintenant. Mais je suis sûr qu'il va voir des tests. Possiblement, on va voir que la situation confirme nos craintes, qu'il y a une proportion relativement énorme. Possiblement qu'on va voir que ce n'est pas aussi pire que nous avons imaginé. Mais pour maintenant, il faudrait être prudent et juste faire tout ce qu'il faut pour protéger la population de ces communautés, la population dehors de sa communauté, pour qu'il n'y ait pas de propagation.
Très bien, Abraham Eckstein, donc porte-parole du comité juif d'intervention COVID-19. Bonne chance, M. Eckstein. Bonne chance.
Merci à vous, Mère.
Merci beaucoup. On va aller rejoindre maintenant la mairesse de Boisbriand, Marlène Cortado. Bonjour, Mme Cortado.
Bonjour, M. Drainville, c'est Cordato.
Cordato, oui, voilà. Dites-moi, là, pour les gens de la communauté de Boisbriand et des Basses-Laurentides en général, là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous rassurer que les contrôles mis en place sont suffisants pour éviter une propagation trop grande?
Bien, écoutez, on a mis en place les contrôles. En fait, la communauté s'est prise en main. Nous, on est en appui. La ville et la régie de police, on est en appui à la communauté qui applique l'ordonnance de la santé publique. Alors, depuis hier, on est en lien avec la direction de santé publique des Laurentides. Et depuis le début de la pandémie, on était aussi en lien avec eux pour s'assurer que les informations parvenaient à la communauté parce qu'on connaît notre population en Boisbriand. Donc, on voulait s'assurer qu'ils étaient au courant, qu'il y avait des gens qui s'occupaient d'eux. Et ça a été confirmé dès le départ. La santé publique avait des liens avec la communauté, expliquait exactement la nature de ce qui était vécu et comment fallait s'y préparer.
Mais Mme Cordato, Mme la mairesse, là, la communauté, les leaders de la communauté, Tosh, ils se sont manifestés à quel moment? À quel moment ils ont dit, on pense qu'on a un problème, je pense qu'il faudrait que vous veniez nous tester. À quel moment c'est arrivé la semaine passée?
Cette formation-là, elle appartient à la direction de santé publique. Vous comprendrez que c'est l'autorité compétente en ce moment, c'est la direction de santé publique. Alors, c'est avec eux que cette relation-là se fait.
OK, mais vous avez été informée comme mairesse, Mme Cordato? Oui. Vous avez été informée comme mairesse?
J'ai deux périodes d'information. Dès le départ, pour s'assurer qu'il y avait un lien avec la communauté par la direction de santé publique. Et la deuxième fois, hier, pour m'informer qu'on aurait une ordonnance de confinement qui serait donnée à la communauté en fin de journée, ce qui a été fait à 16h hier après-midi.
OK. Donc, à quel moment avez-vous été informé par la santé publique qu'il y aurait des tests qui seraient faits là, au sein de la communauté Tosh? À quel moment on vous l'a dit?
Je l'ai su hier dans la journée.
OK, mais vous auriez dû le savoir avant, non, comme mairesse de Boisbriand? Vous pensez pas?
j'ai pas l'information des tests qui sont effectués sur personne dans ma communauté. Alors, non, pas seulement dans la communauté juive, mais dans le reste de la communauté. Je peux pas vous dire le nombre de personnes qui sont infectées sur mon territoire à Boisbriand. C'est pas une information qui est divulguée par la santé publique. Alors, on sait qu'il y a de, qu'il y a 120 cas dans les Laurentides. On sait qu'il y a une plus grande, il y a plus de cas dans les territoires qui sont plus densiers, donc au sud des Laurentides, mais on n'a pas le nombre exact là, de cas, mais je sais qu'il y a d'autres cas à Boisbriand qui ne sont pas dans la communauté juive.
OK, bien non, mais c'est sûr ça. Mais alors, j'essaie de comprendre. Les membres de la communauté sont en confinement. Donc, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on pourrait leur permettre de passer le barrage policier et de sortir? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, y a-t-il des exceptions au confinement?
Oui, des exceptions qui sont liées à la santé ou à des services essentiels, donc à la santé, parce qu'il y a d'autres cas de santé qui ne sont pas uniquement liés à la COVID-19. Mmh. Alors, donc là, les gens pourraient sortir pour avoir accès à ces soins de santé-là. Et il faut comprendre qu'on est des gens de la communauté qui habitent à l'extérieur de la communauté. Eux vont pouvoir se déplacer pour avoir accès aux services d'épicerie qui sont dans la communauté. Alors, ça, c'est les gens qu'on va voir se déplacer. Mais ce sont uniquement ces déplacements-là qui seront permis.
Et les personnes, par exemple, qui pourraient venir de New York, qui seraient de la famille ou qui seraient peut-être même des membres de la communauté, mais qui sont enregistrés dans l'État de New York, est-ce qu'on va leur permettre de rentrer dans la communauté, eux?
Absolument pas.
OK. Ça, vous êtes catégorique là-dessus.
Tout à fait.
Très bien. OK. Ben alors, juste avant de vous laisser, votre niveau d'inquiétude, c'est quoi, Mme la mairesse? Parce que honnêtement, tu as une quarantaine de résultats qui sont arrivés. À peu près la moitié était positif. Là, on a bien compris dans l'entretien qu'on vient d'avoir avec notre collègue Philippe Bonneville là, que le nombre de personnes de la communauté qui ont contracté le virus est plus important que ce qu'on croyait. Ils sont 4000 dans la communauté. Est-ce que vous craignez que la communauté soit un important foyer de contagion?
En fait, ce qu'on voit, c'est que le docteur Goyer a précisé ce matin, c'est que les gens qui sont infectés actuellement à la COVID-19 sont des voyageurs. Alors, donc, c'est le même type de cas que ce qu'on voit ailleurs dans la population. Ce qui est important dans cette communauté-là, c'est que les gens, vous l'avez déjà dit, ils sont plusieurs à vivre sous le même toit. Donc, c'est densément peuplé, mais le fait qu'on est capable, parce que c'est un secteur qui est circonscrit, qu'on est capable de confiner à l'isolement dans ce secteur-là, ça va permettre à la direction de santé publique d'être capable de voir les cas, de les diagnostiquer et d'appliquer des mesures de confinement et d'isolement pour être sûr qu'il n'y a pas de propagation vers l'extérieur de la communauté. Alors ça okay. permet à la santé publique d'avoir le contrôle.
Marlène Cordato, mairesse de Boisbriand, merci.
Merci beaucoup, M. Drainville. Bonne journée.
Bonne journée à vous. On va aller rejoindre notre collègue chroniqueur à Puisqu'il faut se lever, Lise Ravary. Lise, tu connais bien cette communauté juive hassidique. Peux-tu juste m'expliquer?
Mais je veux dire une chose, Bernard. Oui, je connais la vie hassidique parce que j'ai longtemps fréquenté ce milieu-là. Mais la communauté de Tosh comme telle, je suis déjà allée, mais c'est pas une communauté où j'avais des liens, là.
OK. Mais je veux juste comprendre, Lise, tu connais quand même la culture, je dirais,
oui,
de cette
oui,
communauté-là.
Oui, oui.
Quand tu te retrouves à 7, 8, 10, 12 dans le même condo, je veux bien croire que tu dis que ce n'est pas un problème de communauté, comme me dit M. Eckstein, c'est un problème de famille. Mais oui. Je veux dire, c'est compliqué là, de s'assurer que le virus ne se propage pas dans le reste de l'espace familial. Est-ce qu'ils vont... On imagine qu'ils ont un esprit de famille très développé, un esprit de communauté aussi. Est-ce qu'à la rigueur, une famille pourrait accepter que certains des enfants quittent l'espace de l'appartement ou de la résidence pour éviter la propagation au sein de la même famille?
Ah ben oui, absolument. Ils sont extrêmement mobiles, pas juste entre Montréal et New York. C'est des gens pour qui la géographie n'est pas tout à fait la même que nous. Mm-hmm. C'est-à-dire... Tu vas envoyer ton fils de 8 ans étudier la Torah en Afrique du Sud parce que t'as entendu parler qu'il y avait un grand rabbin, puis tu t'inquiéteras pas 2 secondes. Bon, c'est juste pour montrer à quel point, on va aller chez grand-maman, et très souvent la famille, quand elle, évidemment, elle n'est pas dans la même maison, est à côté, elle est en haut, grand-maman est en haut, et puis là, ça se promène, puis c'est, on s'entraide, c'est très fluide.
Donc, ça t'inquiète pas trop, toi?
Tout le monde se connaît.
Ça t'inquiète pas trop, toi? Ou est-ce que ça t'inquiète?
Oui, c'est inquiétant. Bien sûr que c'est sûr que c'est inquiétant parce que c'est une façon de vivre pour nous qu'on trouve un peu archaïque, puis ça tombe mal. Mais tu sais, quand t'as 12, 13, 14 enfants, je veux dire, c'est tes enfants, là. Tu sais, c'est pas un Airbnb. Alors, si tout le monde est confiné dans la maison, ne sort pas du tout, c'est sûr que le risque est la même chose que si t'en avais 3 enfants. Mais l'affaire, c'est comment réussir à garder autant d'enfants. Puis, tu sais, c'est une espèce de la vie communautaire à l'excès, là, si on peut dire, extrême, en tout cas. C'est vraiment pas les mêmes références que nous. On a vraiment de la misère à comprendre et à accepter, même à la limite, qu'ils soient heureux dans ce genre d'arrangement-là. Or, ils sont, comment je dirais, ils sont très à l'aise avec tout ça, avec cette façon de vivre. Et c'est pour ça que c'est difficile pour eux de couper qui sont pour la plupart du monde moderne. N'oublie pas, là, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de journal de Montréal, à la limite, il y a peut-être une gazette qui circule sous le manteau, là. Ils vont écouter un petit peu la radio.
Donc, les leaders de la communauté deviennent très importants, Lise, pour s'assurer que les directives soient suivies.
Ils le sont tout le temps. Ouais. Dans une communauté assidique, là, tu peux pas te marier sans avoir la permission du ce qu'on appelle le rébé, qui est le rabbin, le grand rabbin de cette communauté-là. Tu peux pas changer de job, tu peux pas... Tout passe par l'autorité du rabbin. Alors, si le rabbin dit... Vous allez vous confiner à la maison, tu peux être sûr que ça va être un cas sérieux d'envoyer à la maison.
On va espérer que ça va marcher, Lise Ravary.
Ça devrait, parce qu'ils sont, ça c'est une chose, Bernard, ils sont obéissants.
OK. On va voir, Lise Ravary, on l'espère, que ça va fonctionner.
Bien sûr.
Chroniqueur a pu ce qu'il faut se lever. Merci, Lise.
Merci.
Dans un instant, Marguerite Blais.